RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en direct ce lundi pour le 18-19 en Champagne-Ardenne. On est très heureux de vous accompagner. À mes côtés, Jean-Pierre Benoît, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous. Un direct de 50 minutes, mais qui commence hélas par une mauvaise nouvelle que nous avons appris cet après-midi.
Effectivement, nos pensées, nos prières de toute la famille RCF au sens large, évidemment, les salariés, les permanents, mais tous les bénévoles, les producteurs s'associent aux côtés de Jean-Pierre Quénard qui a perdu son épouse ce matin, Marie-Lou Quénard.
Voilà.
On a vraiment une pensée pour Jean-Pierre Quénard, qui est un bénévole investi, notamment membre du bureau de RCF.
Jean-Pierre Quénard était depuis de nombreuses années, c'est son épouse qui est décédée.
Oui, tout à fait.
Jean-Pierre Quénard est trésorier de RCF Reims-Ardennes, trésorier adjoint. Il avait été après...
Il est toujours engagé dans RCF.
Bien sûr. Après des demandes qui avaient été faites du temps de Pierre Burguet, qui était président de RCF Reims-Ardennes, il avait été adjoint aux côtés d'Henri Roger, puis maintenant auprès de Geneviève Loison, où il continue bien sûr de siéger. Et pour la petite histoire, malheureusement, de cette mauvaise nouvelle, ce matin, à 10h, nous avions une réunion de bureau et nous avons constaté l'absence de Jean-Pierre Quénard. Et nous savons aujourd'hui que c'est aux alentours de 10h que son épouse Marie-Lou était en train de décéder. L'occasion pour nous de nous associer à la peine, aux condoléances pour toute la famille de Jean-Pierre Quénard et tous ses amis. Il avait beaucoup travaillé aussi avec la société Saint-Vincent-de-Paul, les amis de la cathédrale. Les obsèques de Marie-Lou Quénard seront célébrées mardi prochain, le 19 septembre, à l'église Saint-Jacques de Reims, l'après-midi, probablement. L'horaire exact n'est pas encore précisé.
On a vraiment une pensée pour toute la famille et tous les proches dans cette émission. Jean-Pierre Benoît, au sommaire, nous avons Jean-François Boulanger qui regardera sur le monde. On évoquera l'Inde, une nouvelle puissance mondiale. Il est en train de s'installer en studio. Ensuite, on ira du côté de Glaire, dans les Ardennes.
Oui, le maire de Glaire, André Godin, est avec nous. Un maire qui va nous parler avec son franc-parler ardennais de façon directe et avec toujours beaucoup d'intérêt pour sa mission de maire qu'il accomplit déjà depuis quelques années.
On ira avec Christine Francard, conseillère en séjour, s'intéresser à quelques randonnées à faire prochainement dans l'Argonne. On partira du côté de Châlons-en-Champagne avec l'exposition No Animaux, Mass Anima. Et puis évidemment, c'est l'événement incontournable du week-end. On ne pouvait pas ne pas revenir dessus. L'ordination de Mgr Étienne Véteux. On en parlera à l'intérieur du journal régional avec la réaction de Mgr Étienne Véteux. Mais surtout, aux alentours de 18h40, on aura un grand format sur cette ordination. Si vous n'étiez pas avec nous ce matin, c'est aussi l'occasion de vous dire que sur le site RCF en replay, nous avons une édition spéciale de 30 minutes.
On en avait beaucoup parlé donc effectivement ce matin et on en reparlera également ce soir puisque dans les méditations de ce jour aux alentours de 19h10, nous écouterons l'intégralité de l'homélie de Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Alors il faut dire Alexis que nous retrouvons donc, ça y est, il est installé maintenant, Jean-François Boulanger à votre micro.
Regard sur le monde, c'est en alternance avec Claude Ruiz et Jean-François Boulanger. La semaine dernière, c'est Claude Ruiz qui avait marqué la rentrée. Jean-François Boulanger a fait aussi sa rentrée, c'était avec Mémoire Chrétienne. Aujourd'hui, vous le faites dans Regard sur
Absolument.
Le monde. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Et on va s'intéresser à l'Inde, une nouvelle puissance mondiale. Le G20 vient d'avoir lieu, c'était à New Delhi. C'est la première fois que la capitale de l'Inde accueille ce sommet des 20 pays qui comptent le plus dans le monde. C'est l'illustration du rôle que joue aujourd'hui l'Inde à travers le monde, justement.
Absolument.
Jean-François.
Absolument. On parle peu de l'Inde en France, hein. Vous l'avez peut-être remarqué, parce que ce pays nous semble très loin et que son passé l'associe peu à la France, contrairement au Royaume-Uni. Et pourtant, ce pays est aujourd'hui la 5e puissance mondiale. Fait symbolique, il a dépassé sur ce plan son ancien colonisateur, le Royaume-Uni. Sa croissance économique a atteint l'an dernier le chiffre de 7,2%, croissance économique supérieure à celle de la Chine. Croissance démographique supérieure également à celle de la Chine, qui fait aujourd'hui de lui le pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants.
Pour les plus âgés d'entre nous, Jean-François, et même, je me rappelle, il y a encore quelques années, quand moi-même j'étais à l'école primaire, on nous parlait de l'Inde comme un pays avec des campagnes contre la faim dans le monde. Est-ce encore le cas aujourd'hui, Jean-François ?
Voilà, moi j'ai fait partie de ceux à qui leurs parents disaient, quand ils ne voulaient pas manger leur soupe, mange parce que les petits Indiens n'ont rien à manger. Et effectivement, pendant longtemps, l'Inde a connu de grandes famines. La dernière a eu lieu en 1943. Ensuite, il n'y a plus de famine, mais la situation restait très fragile. parce que l'Inde restait dépendante des aléas de la moisson. Si la période sèche était trop longue, on risquait de manquer de nourriture, et inversement, de trop fortes précipitations risquaient de compromettre également la récolte. De ce fait, on restait quand même très dépendant de l'aide alimentaire étrangère, notamment américaine.
À quel moment l'Inde va sortir de cette situation de dépendance, ou au moins les prémices ?
Eh bien, au milieu des années 60. En 1965 et en 1966, la production alimentaire avait baissé de 19% la première année, de 16% la seconde, en raison justement de la mousson. Et l'Inde du Nord, qui est la partie du pays la plus peuplée, était carrément au bord de la famine. Et dans le même temps, les relations politiques entre les États-Unis, qui aidaient l'Inde, et l'Union indienne s'étaient détériorées en raison de la guerre indo-pakistanaise de 1965, le Pakistan à l'époque étant très lié aux États-Unis, et de la guerre du Vietnam que condamnait l'Union indienne. Et du même coup, il était plus que jamais nécessaire pour les Indiens de mettre fin à une dépendance alimentaire qui pouvait être un moyen de pression sur leur politique étrangère. Donc les dirigeants indiens vont mettre l'accent sur la conquête rapide de l'autosuffisance alimentaire.
Comment vont-ils y parvenir ?
Alors, par ce qu'on a appelé la révolution verte. En effet, les progrès de la production au cours de la période précédente avaient été obtenus par l'augmentation de la superficie cultivée. Mais c'était plus possible, on avait épuisé les possibilités dans ce domaine, donc la croissance ne pouvait venir que de l'accroissement des rendements. C'est ce que préconisait d'ailleurs depuis longtemps la Banque mondiale, et c'est donc la révolution verte qui démarre en 1966 par la substitution de variétés de céréales à très haut rendement, fournies d'ailleurs par les grandes firmes agroalimentaires mondiales, qui se substituent aux variétés traditionnelles qui sont robustes mais moins productives. De nouvelles variétés qui exigent par ailleurs beaucoup d'engrais et beaucoup d'eau. Donc l'opération a concerné principalement les deux céréales majeures, le riz et le blé.
Quel a été le résultat de cette politique, Jean-François Boulanger ?
Eh bien, aujourd'hui, l'Inde est en capacité non seulement de subvenir à ses propres besoins, mais de constituer des stocks stratégiques de blé notamment, qui représentent en moyenne 20% de la consommation du pays. Alors ces stocks peuvent permettre de pallier d'éventuelles mauvaises récoltes, et surtout, dans ce cas-là, l'Inde ne dépend plus de l'étranger. Mais ces stocks, on en a parlé récemment parce qu'ils permettent aussi à l'Inde d'intervenir sur le marché mondial du blé. Et lorsque le prix du blé augmente sur le marché mondial, l'Inde a les moyens de vendre son blé au prix fort. Ça a été le cas pendant la campagne céréalière 2012-2013 et ça a été le cas aussi lors des campagnes céréalières les plus récentes où les exportations indiennes vers l'étranger ont dépassé 5 millions de tonnes. Pourquoi ? Parce que l'absence de l'Ukraine sur le marché du blé à l'exportation a créé un vide que le blé indien s'est empressé de combler. Et donc aujourd'hui, le gouvernement indien a décidé de stopper ses exportations. Ça s'est passé en mai 1923 pour limiter justement la hausse du prix du blé sur son propre marché, parce que l'Inde avait été confrontée au mois de mai à des températures extrêmement élevées qui avaient dégradé les récoltes.
Et la même chose pour le riz.
Alors pour le riz, effectivement, l'Inde assure aujourd'hui 40% des exportations du marché mondial. C'est beaucoup, mais allez dans votre supermarché préféré et vous verrez qu'il y a un riz qui est très apprécié qu'on appelle le riz basmati et qui vient généralement des Indes. Or, toujours pour limiter l'inflation sur son marché intérieur, le 20 juillet dernier, New Delhi a interdit l'exportation du riz blanc non basmati. Ça représente à peu près un quart de ses exportations habituelles du riz. Et cela a entraîné une hausse des cours mondiaux du riz de 9,8% au mois d'août.
Jean-François Boulanger, pour revenir sur notre territoire, même si on regarde sur le monde, est-ce qu'on a été impacté par cette hausse ou est-ce que ce sont d'autres États qui ont été touchés ?
On n'a pas été vraiment impacté parce que, je vous l'ai dit, ce n'est pas le riz basmati qui est le plus apprécié en France. Par contre, les pays les plus pauvres qui achètent plutôt, par exemple, des brisures de riz, eux ont été touchés. C'est des pays africains, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, des pays du Moyen-Orient comme la Turquie, la Syrie, et même certains pays asiatiques comme le Pakistan, qui est l'ennemi traditionnel mais à qui on vend du riz, et les Philippines.
Alors si je traduis un petit peu ce que vous nous racontez aujourd'hui, Jean-François Boulanger, il n'y a plus de problème agricole en Inde.
Alors on peut dire que les progrès ont été massifs et notamment ça a entraîné des progrès sanitaires importants. Les grandes épidémies ont presque disparu depuis la veille de l'indépendance. L'impact des maladies infectieuses et parasitaires reste fort, environ 17% des décès, pour lesquels on dispose d'un certificat médical détaillé. Et pour moitié, il s'agit de la tuberculose ou, dans le cas des enfants, d'infections intestinales et de septicémie, c'est-à-dire des choses qu'on a connues en France encore au début du XXe siècle. Par contre, ce qui est devenu l'autre source majeure de décès aujourd'hui en Inde, avec 21% du total des morts qui font l'objet d'un certificat médical détaillé, ce sont les maladies du système cardiovasculaire, avec infarctus du myocarde, maladies cérébrovasculaires, AVC si vous préférez, ce qui en fait correspond à ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos pays. Donc, nous avons une situation démographique en Inde qui se rapproche de plus en plus de la nôtre, avec des progrès de l'espérance de vie qui ont été importants. Entre 1921 et 1996, l'Inde a gagné 40 ans d'espérance de vie.
Est-ce que tout cela traduit que tout va pour le mieux en Inde ?
Ben non, malheureusement, parce qu'il y a toujours des inégalités sociales et régionales fortes. Et d'ailleurs, lorsque les délégations étrangères sont venues pour le G20, on s'est efforcé, la télévision s'en est fait l'écho, de cacher les bidonvilles, de cacher la misère qui existe encore. Et puis par ailleurs, tout à l'heure on a évoqué les problèmes posés par les moissons, il faut savoir que le réchauffement climatique accroît les orages, les ouragans provoqués par la mousson. On en parle peu, voire pas du tout, mais un bilan établi le 15 août dernier chiffrait à 65 le nombre des victimes des inondations et des glissements de terrain qui ont été provoqués par des précipitations trop intenses. Ce n'est pas nouveau, mais selon les scientifiques, les pluies de mousson sont plus fortes et plus fréquentes en raison du changement climatique. Et dans les zones les plus atteintes, de grands axes routiers ou des lignes électriques ont également été endommagés, bloquant ainsi des millions de personnes. Le réseau ferroviaire a lui aussi subi de lourds dégâts. Et donc en juillet, plusieurs jours de pluie de mousson avaient déjà tué au moins 90 personnes en Inde, tandis que la rivière qui traverse la capitale New Delhi avait enregistré ses plus hauts niveaux depuis 1978. Ajoutez à cela la hausse des températures, dont on a aussi parlé, et selon le Climate Risk Index, l'Inde est aujourd'hui le 7e pays du monde le plus affecté par le changement climatique. Alors il faudra ajouter aussi d'autres choses, qui sont les tensions religieuses qui s'accroissent dans le pays, mais c'est un problème trop vaste pour qu'on l'aborde aujourd'hui. On en reparlera peut-être une autre fois.
Avec joie, Jean-François Boulanger, d'autant qu'il y aura d'autres sujets à évoquer, comme l'Inde qui voudrait changer de nom, puisqu'il voudrait revenir au nom Bharat, qui a priori est le nom historique dans les premiers textes avant que la Grande-Bretagne colonise l'Inde.
Voilà, ça vient justement de Modi, qui justement est un nationaliste hindou fervent et qui, de ce point de vue-là, voudrait un peu oublier l'épisode de la colonisation anglaise.
On aura l'occasion d'en reparler avec vous. À très bientôt, Jean-François.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h23, tout de suite, on vous emmène entre Donchery et Sedan, dans la commune de Glaire. On est bien dans le département des Ardennes, et qui est avec nous pour en parler ? Votre maire, évidemment, le maire de Glaire, André Godin, avec Jean-Pierre Benoît.
André Godin, bonjour !
Bien le bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a beaucoup de plaisir à aller dans les Ardennes, bien sûr, pour mieux connaître votre commune, Glaire. Alors évidemment, on a des auditeurs de la Marne ou même parfois dans les Ardennes qui n'ont pas une bonne idée de la géographie. Est-ce que vous pouvez nous situer où se trouve Glaire dans le département des Ardennes ?
Ben, Glaire se trouve à proximité immédiate de la ville de Sedan. Si ça vous cause un peu plus.
Ah bah oui, un petit peu, oui. Mais on connaît Glaire, RCF, on connaît Glaire, mais c'est pour nos auditeurs.
Voilà, donc à proximité de Sedan, on occupe une superficie d'environ 657 hectares et notre commune regroupe trois villages. On a fait les communes nouvelles bien avant l'heure d'ailleurs. C'est Glaire, Ige et Villette.
Combien d'habitants en tout, à peu près, monsieur le maire ?
860 environ.
860, mais c'est une commune déjà importante. Et vous êtes maire depuis plusieurs années
Je suis maire depuis 1995. Mais préalablement, j'ai été élu en 1983. J'ai fait un mandat en tant que conseiller municipal et puis ensuite en tant qu'adjoint.
C'était un peu dans votre ADN, c'est devenu naturel d'être maire. On vous l'a proposé, vous avez été présenté, et puis bon, vous avez fait la route toute droite, quoi.
Oui, c'est aussi poussé par mon beau-père qui était adjoint à l'époque, et puis mon prédécesseur. Vous savez, je travaillais en DDE, donc on est censé avoir certaines compétences.
À la direction de l'équipement.
Voilà, direction départementale de l'équipement. Donc, je travaillais énormément pour le compte des communes, pour les aménagements de rues, les réseaux, l'urbanisme. Je travaillais sur différents domaines de compétences pour les communes. Et c'est pourquoi ils sont venus me démarcher pour que je rentre au conseil municipal.
Alors, André Gaudin, comment peut-on caractériser votre commune aujourd'hui? Quel type d'habitants? Des retraités, des jeunes, des agriculteurs, des gens qui travaillent à Sedan, à Charleville?
Alors, on a pas mal de retraités. Hein. On a une population vieillissante, malheureusement, comme de nombreuses communes ardennaises. Vous savez que le problème de notre département, c'est qu'on est en train de perdre pas mal de population et ça frappe notre commune. Là, je vous parlais de 860 habitants, on était à 980 en 1990. Alors qu'on n'arrête pas de construire, mais bon, on a de plus en plus de retraités et de plus en plus de familles monoparentales.
Vous construisez, il y a donc des arrivées nouvelles quand même dans votre commune.
On a des arrivées nouvelles ou des jeunes de la commune qui peuvent rester. Parce que le gros problème de maintenir la jeunesse, si vous aimez mieux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés au niveau de l'activité industrielle notamment. On a perdu énormément durant toutes ces décennies, comme tout le département des Ardennes d'ailleurs. Le textile a pratiquement disparu. Nous, on avait quand même l'entreprise sommaire qui était un gros pourvoyeur de main-d'œuvre. On avait Usinor, maintenant c'est...
Oui, mais je vous interromps encore, André Gaudin, mais vous n'êtes pas loin de Charleville. On peut aller à Charleville en voiture, on peut aller à Sedan, et puis s'établir à Glaire, parce que bon, c'est un beau cadre de vie, c'est un village, on préfère le village que d'aller en ville. Il y a toute une population pour ça.
Tout à fait, mais on a quand même des couples avec des enfants, mais de moins en moins.
Enfin, de moins en moins.
Des couples pour de moins en moins d'enfants. Donc, ce
bien
qui
sûr.
Fait que, ben, on n'a pas de renouvellement. Quoi.
Alors, une question à propos des communautés de communes. Vous appartenez à une Ardennes Métropole, bien sûr, mais est-ce que le maire est encore le patron chez lui?
On a perdu de nombreuses compétences qui nous sont imposées d'ailleurs par la loi, parce qu'il faut savoir que notre commune, si vous aimez mieux, c'est toujours prononcé contre ces communautés, non pas contre les gens qui y travaillent, hein, que les choses soient claires, mais contre le principe, parce que finalement, en perdant les compétences de proximité, on perd l'efficacité. Et c'est notre gros souci actuellement, c'est que finalement on a des grosses structures qui se mettent en place de par la loi et ça coûte beaucoup plus cher. Hein,
mais est-ce que vous avez, parce que le temps, je vous interromps encore, hein, je ne fais que ça en ce moment parce que le temps passe très vite, il nous reste 3 minutes, donc ça va très vite. Est-ce que vous avez des projets en cours, André Gaudin, avec votre commune? Vous qui connaissez bien la voirie,
toujours,
vous avez deux, trois...
On a toujours, vous savez, tous les ans, on a pas mal d'aménagements de voirie qui viennent de se terminer et puis on continue. On a d'autres projets pour finir la rénovation totale de nos rues. On a également une maison... pour appeler maison médicale, mais on n'a aucune aide parce qu'on n'a pas deux médecins. Si, on a de nombreux projets. Au niveau du monde associatif, on est toujours en train de développer un peu les aides et on vient de mettre en place d'ailleurs pour les jeunes un terrain multisport. On a de nombreux projets encore, mais c'est le côté financier qui nous chagrine un peu, parce qu'on a de moins en moins d'aides et de plus en plus de contraintes financières. Tout coûte de plus en plus cher, on est de moins en moins aidé. En plus de ça, on a des contraintes administratives qui sont très lourdes. Hein. D'ailleurs, c'est en France...
C'est la paperasserie. Hein.
On parle d'une démocratie, mais c'est une démocratie administrative.
On aime la paperasse, ça c'est vrai. Alors, monsieur le maire...
Beaucoup trop de paperasse.
Monsieur le maire, comment peut-on conjuguer le fait d'être maire et la vie professionnelle? Bon, peut-être êtes-vous en retraite, je ne sais pas, monsieur le maire. Et puis, maire et puis vie familiale. Parce que c'est prenant d'être maire dans une commune.
Tout à fait. C'est très prenant. La bonne preuve, c'est que, vous savez, bon, en 95 et puis même en 83, puisque j'avais quand même pas mal d'activités
gagné
au niveau de la mairie, j'avais des journées très, très bien remplies. J'arrivais quand même à me libérer souvent sur le coup de midi une petite heure pour voir un peu l'urgence des contraintes administratives à remplir. Je dis bien des contraintes parce qu'on en a énormément. Et puis le soir, je travaillais jusqu'à des 22, 23 heures. Hein.
Merci en tout cas, André Gaudin, maire de Glaire, d'avoir été avec nous. Un maire qui nous parle avec franchise dans cette terre ardennaise à laquelle il est particulièrement attaché. Et nous, à 18h30, l'heure du direct, c'est l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claudretz.
Les titres de ce lundi 11 septembre à 18h31, retour sur l'ordination de Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. C'était samedi en la cathédrale Notre-Dame de Reims. En novembre, un bus France Service sillonnera le département de la Marne afin d'accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mgr Étienne Véteux a été ordonné évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes samedi en la cathédrale Notre-Dame de Reims. À l'issue de la célébration, il nous partageait ses premières impressions.
Impression d'être accueilli très chaleureusement. J'ai vraiment senti que dans cette célébration eucharistique, il n'y avait pas simplement des individus qui étaient les uns à côté des autres, mais réellement une communauté qui représente tout le diocèse. Donc pour moi, c'est vraiment un grand bonheur d'arriver dans un lieu aussi fraternel.
Une ordination dans une cathédrale qui avait fait le plein entre fidèles diocésains et proches de Mgr Étienne Véteux.
Je suis très heureux que les diocésains soient venus rencontrer. Il y avait aussi beaucoup de personnes de différents pays du monde par lesquels j'étais passé, donc une grande preuve d'amitié. Mais surtout, c'est moi qui maintenant vais aller à la rencontre des diocésains à Reims, dans les Ardennes. Je compte vraiment pouvoir aller peu à peu, avec le temps, dans tous les endroits du diocèse.
À l'occasion de cette ordination, Mgr Véteux a choisi sa devise.
J'ai pris un extrait du livre du Deutéronome, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». C'est Deutéronome 6,5. Il y a eu deux raisons. D'abord, c'est une prière juive, le Shema Israël, la grande prière juive. Et comme ça, ça me permet d'exprimer le lien de l'Église avec le peuple juif, ses racines. Et puis aussi, l'amour de Dieu, c'est le cœur de tout. La seule question qui nous sera posée à la fin de notre vie, ce n'est pas si nous avons été intelligents, compétents, si nous avons fait les choses comme il fallait, c'est est-ce que nous avons aimé. Et c'est la seule question que nous devrions nous poser. À nous-mêmes.
Ordination sur laquelle on reviendra d'ici quelques minutes avec des témoignages de personnes présentes. À noter qu'à 19h12 ce soir, à la place de la méditation proposée habituellement par le père Thierry Bettler, et sur RCF Reims Ardennes, vous entendrez l'homélie de Mgr Éric de Moulin-Beaufort de samedi à l'occasion de l'ordination de Mgr Étienne Véteux. Ouverte vendredi, la foire de Sedan draine du public, mais plutôt des passants que des consommateurs. Les camelots de la foire parlent d'une année catastrophique. Il reste jusqu'à mercredi pour améliorer la situation. En revanche, la 77e foire de Chalon a cartonné, on peut déjà le dire, même si elle vit encore ses dernières minutes. Fermeture des portes à 19h. Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles, s'y est rendue ce matin, notamment au campus senior, où elle a rencontré les acteurs du monde économique et social du grand âge, proposant des solutions pour vieillir activement et en bonne santé. Et c'est sur cette même foire de Chalon qu'a été présenté le bus France Service, le conseil départemental de la Marne. Avec le soutien de l'État, a créé cet outil, un véhicule qui viendra compléter l'offre du réseau France Service initié par le gouvernement en 2019, comme nous l'explique son président Christian Bruyant.
Nous, on a considéré que chef de file des politiques de solidarité essayait d'aller vers les gens vraiment très éloignés de ces maisons France Service. Et on a eu l'idée de cette mobilité, un bus qui va permettre d'aller dans 27 communes marnaises, tout très rurales, pour aller à la rencontre, aller vers des citoyens fragilisés par manque de mobilité. Et puis aussi, disons-le, tout numérique, la dématérialisation, c'est un vrai progrès pour beaucoup de gens. Mais pour certains, eh bien, c'est un handicap. Et donc, ce bus va permettre d'oublier le moins de concitoyens marnais possible.
Un bus itinérant et équipé que nous présente Christian Bruyant.
Alors il est aménagé de manière à permettre l'accès des personnes à mobilité réduite. Ça n'est pas encore le cas, mais il sera en service dans quelques semaines et voilà, il y aura cet accès possible avec une plateforme à l'arrière, un espace de confidentialité, tous les outils du numérique, ordinateur, imprimante, de manière à ce que les gens puissent venir pour certaines démarches administratives, pour les conseiller, pour les accompagner dans toutes ces démarches.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Pour un budget de 250 000 euros, le bus France Service sera ouvert gratuitement au public une demi-journée par mois dans les 27 communes marnaises desservies. Il débutera sa tournée le 6 novembre à Bouy et Bennoroy. Un mot de sport avec du football. La troisième édition du Trophée des Championnes opposant l'équipe vainqueur de la Coupe de France féminine et l'équipe championne de France de D1 Arkema ou son Dauphin, si celle-ci est la même, se tenait hier soir à Troyes. Les Lyonnaises se sont imposées 2-0 face aux Parisiennes. À noter que l'ancienne Rémoise arrivée à l'OL cet été, Melky Dumornay s'est illustrée en ouvrant le score à la 35e minute de jeu. 18h36, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Dans quelques minutes, la 77e édition de la foire de Chalon-en-Champagne va fermer ses portes, mais j'en connais un qui n'a pas envie de quitter les lieux. Christopher Fausten est avec Christine Francard, conseillère en séjour et guide sur l'Argonne, afin de nous présenter les prochains rendez-vous du côté de l'Argonne, justement.
Christine Francard, bonjour.
Bonjour.
Très prochainement, et même d'ailleurs dans les prochains jours, il se passe beaucoup d'animations du côté de l'Argonne. Alors quand on dit l'Argonne, on est assez large, Christine Francard, on peut le dire, hein, c'est l'Argonne champenoise, l'Argonne marnaise.
L'Argonne marnaise, meusienne ou ardennaise.
Alors vous allez me dire où on va aller exactement dans l'Argonne, puisque fin septembre, vous proposez une randonnée.
Oui, je propose une randonnée à la découverte de la forêt d'Argonne, donc c'est un petit peu spécifique, mais surtout pour découvrir les champignons qu'on trouve en Argonne, tous les champignons qu'on peut trouver. La première partie, ce sera la randonnée avec la cueillette des champignons. Et la deuxième partie, on va exposer, pour ceux qui n'ont pas pu randonner, on va exposer les champignons. On fait intervenir une personne qui a des très grandes connaissances dans les champignons, pour savoir lesquels on peut manger, lesquels faut surtout pas manger ou toucher. Donc on va faire une exposition ensuite à l'office de tourisme de tous ces champignons.
Oui, c'est ce que j'allais dire, Christine Francard. En fait, cette randonnée va donc emmener vers une exposition. Elle va avoir lieu dans la foulée?
Oui, dans la foulée, c'est-à-dire que le matin, on va randonner et l'après-midi, on va faire l'exposition. Et les gens, même le dimanche, pourront profiter de cette exposition de champignons argonnais.
Alors, les auditeurs qui seraient intéressés par cette randonnée et donc à réaliser cette exposition, il suffit de vous contacter directement?
Oui, on me contacte directement, soit par mail, soit par téléphone, c'est le plus simple, au 03 26 60 85 83. La rando a lieu le 30 septembre au matin. Donc rendez-vous à l'office de tourisme si ça vous intéresse. On va faire la rando, après vous avez, on va dire, quartier libre si vous voulez manger sur Sainte-Menehould. Et l'après-midi, on attaque, on fait ensemble l'exposition.
Ça, il est important de s'inscrire?
Oui, il vaut mieux s'inscrire, comme ça je sais le nombre de personnes qui m'accompagneront, s'il faut un guide ou deux guides.
Christine Francard, une autre randonnée aura lieu mi-octobre, mais cette fois-ci on est plutôt sur le thème du jardin.
Oui, alors c'est le 15 octobre, pourtant il y a encore de très beaux jardins, l'Argonne est très jolie, la ville de Sainte-Menehould également. Et donc c'est une découverte de la ville, moi je l'appelle côté jardin, pour découvrir la ville autrement que le centre-ville, avec bien sûr on parle d'histoire, on parle d'architecture, puisqu'on voit toujours la ville de très loin.
Alors comment va se dérouler cette journée?
Alors cette journée, toujours pareil, rendez-vous à l'office de tourisme, il vaut mieux s'inscrire, c'est mieux pour moi, de savoir combien j'aurai de personnes qui m'accompagneront. Et puis c'est une petite randonnée entre 5-6 kilomètres et toujours agrémentée d'explications historiques ou naturelles sur l'Argonne.
Une randonnée tranquille de 5-6 kilomètres, tout le monde peut y participer?
Ah, tout le monde peut y participer, du plus petit au plus grand, tout le monde peut venir. On ne va pas aller en Argonne où il y a des massifs assez hauts à monter. Non, non. C'est vraiment une randonnée assez détente, on va dire.
On rappelle, Christine Francard, le numéro pour s'inscrire cette fois-ci à cette randonnée sur le thème du jardin mi-octobre?
Oui, alors c'est le numéro de téléphone de l'Office de tourisme au 03 26 60 85 83.
Alors on a cité quelques rendez-vous, on ne peut pas tout citer aujourd'hui sur RCF, il y a d'autres manifestations que vous proposez du côté de l'Argonne. Pour plus de renseignements sur toutes ces animations, j'imagine qu'il y a un site internet?
Alors sur notre site internet, www.argonne.fr, donc vous avez toutes les animations, toutes les randonnées, visites guidées qu'on organise un petit peu partout sur nos sites historiques. Et pour terminer, on travaille avec une personne qui fait des bains de nature, de la sylvothérapie, de l'Artland également pour des animations. Donc voilà, on s'associe avec les nouveautés qui se font maintenant.
Très belle initiative. Merci beaucoup Christine Francard, conseillère en séjour et guide sur l'Argonne, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF depuis la foire de Chalon. À très bientôt.
À très bientôt.
Merci Christine Francard, Christopher Fausten. Vous étiez depuis la foire de Chalon en Champagne qui ferme ses portes dans une petite vingtaine de minutes. Plus d'informations, rendez-vous sur le site argonne.fr. Dans quelques instants, à 18h40, on revient sur l'ordinateur, sur l'ordination de Mgr Étienne Véteux.
Le 18-19 sur RCF.
Des applaudissements nourris de toute l'assemblée présente à la cathédrale Notre-Dame de Reims, c'était samedi après-midi, pour partager la joie d'accueillir Mgr Étienne Véteux comme évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Il faut le dire, Jean-Pierre Benoît, c'était une très belle fête.
Une très belle fête, une fête à la fois emplie de prières, d'émotions, à dimension internationale, à dimension œcuménique, interreligieux, avec les évêques de la province, les évêques d'un peu partout, des amis, la communauté du Chemin Neuf, puisque c'est le premier prêtre de la communauté du Chemin Neuf
à avoir été ordonné. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques
instants. Oui, d'un mot, une très belle célébration, une très belle ordination.
Quelques minutes avant les applaudissements que vous venez d'entendre, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, notre archevêque, procédait à l'ordination de Mgr Étienne Véteux.
Étienne, frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains?
Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec grâce et sainteté.
Voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Voulez-vous garder dans sa pureté, son intégrité, le dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église?
Oui, je le veux.
Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre?
Oui, je le veux.
Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre?
Oui, je le veux.
Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut?
Oui, je le veux.
Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin?
Oui, je le veux.
Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur?
Oui, je le veux.
Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur?
Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, pour Étienne qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qu'il lui donne l'abondance de sa gloire.
L'ordination de Mgr Étienne Véteux en fait le premier évêque de la communauté du Chemin Neuf, comme expliquait Jean-Pierre il y a quelques instants.
Oui, je suis le premier évêque de la communauté du Chemin Neuf. Donc c'est une communauté où j'ai vécu pendant plus de 30 ans, dont je fais encore partie. Un évêque, quand il est religieux, il reste membre de l'ordre auquel il appartient. Mais bien sûr, il ne vit plus avec son ordre et il se met au service de toute l'Église. Et je suis vraiment heureux de faire ce passage. Je pense que ce que j'ai appris dans la communauté, des relations œcuméniques, des relations entre hommes et femmes, du travail dans les couples, les femmes, les laïcs, tout ça, je pourrais le mettre au service du diocèse. Mais maintenant, je m'ouvrirai à toutes les réalités de ce diocèse.
Une communauté du Chemin Neuf largement représentée dans l'Assemblée à l'image de Christelle qui se trouvait là un peu par hasard.
Je fais partie de la communauté du Chemin Neuf au Burkina Faso. Et donc, j'ai appris qu'il y a un prêtre de la communauté qui allait être ordonné évêque à Reims. Et c'est par coïncidence que moi, je me trouve à Reims parce que c'est pas ma ville. Donc, j'ai saisi l'opportunité de pouvoir partager ce moment et voilà. Parce que c'était une double coïncidence, déjà que ce soit un père de la communauté et le fait que je sois exactement ici à Reims. Donc voilà, c'est une action de grâce aussi. Voilà, ce qui se passe, c'est une action de grâce. Voilà.
D'autres avaient bien coché la date du 9 septembre depuis longtemps, à l'image du père Patrick Mulway, venu de New York.
Il est intelligent, mais il est un homme de grand cœur. Est-ce qu'on dit ça? Il aime bien le Dieu et les personnes, les chrétiens. Il est un bon mec.
Aster aussi avait coché la date depuis un moment. Il est membre de la communauté du Chemin Neuf.
Oui, c'est un grand moment, c'est pour ça que je suis venu. L'ordination d'un évêque, c'est pour tout catholique, c'est un événement important parce que c'est le berger du troupeau. Donc moi personnellement, comme je connais l'évêque qui était le père Étienne Véteux, connaissant son charisme, je sais que le diocèse et l'église en général va gagner beaucoup par son charisme.
Partout où il est passé précédemment, Mgr Étienne Véteux a laissé une trace indélébile. Emmanuel Van Nierde est venu de Belgique exprès pour ce moment lui aussi.
Je le connais de Rome comme professeur sur les relations entre les chrétiens et les juifs. On a collaboré ensemble. J'étais rédacteur en chef d'un hebdomadaire chrétien en Flandre et on a publié des articles de lui en néerlandais. Et il est aussi une fois venu pour un congrès pour notre jubilaire du 20e anniversaire. Pour cela, je suis venu. Son spécialité, c'est aussi les relations avec les Juifs. J'espère qu'il peut encore soutenir ces relations. Mais il est aussi un homme joyeux, un peu de background personnel migratoire. C'est aussi un thème peut-être. Et aussi, il est un prêtre de Chemin Neuf. Donc, j'espère qu'il peut surtout aussi aider l'archevêque qui a aussi d'autres tâches comme président de la conférence épiscopale.
À savoir que Mgr Justin Welby, archevêque de Canterbury et primat de l'Église d'Angleterre, connu pour avoir récemment sacré le roi Charles III, était lui aussi de la partie.
C'est parce que Étienne a été ami depuis 15 ans. Nous avons travaillé ensemble en France et à l'étranger, à New York. Donc c'est pour ça et j'ai eu l'opportunité assez rare de venir en France parce que normalement j'étais libre aujourd'hui. Donc je suis venu pour être là. Premièrement, c'est quelqu'un qui aime Jésus et qui aime les gens. Donc il est une personne d'une humanité remarquable, exceptionnelle. Deuxièmement, il est bien sûr professeur à l'université. C'est quelqu'un plein de sagesse. Il peut bien comprendre les problèmes d'aujourd'hui, mais c'est pas quelqu'un qui est caché derrière son expertise théologique. C'est quelqu'un qui est avec les gens.
L'arrivée de Mgr Étienne Véteux comme évêque auxiliaire réjouit déjà les diocésains de Reims et des Ardennes, Vanina, Jacqueline, Lucien et Carole.
Alors pour moi c'est une grande joie, notre archevêque va pouvoir être secondé, donc je suis ravie que cet évêque arrive et j'espère que nous allons bien l'accueillir.
Oui, c'est une grande fête, une grande joie pour nous tous parce que finalement on voit notre archevêque fatigué et on est bien content qu'il soit secondé agréablement par Mgr Véteux.
Je suis très heureux de savoir qu'un tel homme soit nommé évêque auxiliaire de l'archevêque de Reims. C'est vraiment, je suis très heureux. J'ai pu lire un petit peu son curriculum vitae qui a été pour moi un étonnement et puis une projection sur son avenir. J'habite les Ardennes chez ma fille, alors j'aurai peut-être l'occasion de le rencontrer, peut-être. Et ce que je pense qu'il peut apporter au diocèse, c'est la vérité et une jeunesse.
Je tenais à participer à la messe d'ordination pour témoigner aussi de ma foi et aussi vivre avec la communauté cette messe d'ordination parce que c'est très important pour nous d'avoir un évêque auxiliaire pour Adaltum et aussi pour toute l'église de Reims.
Un moment de joie pour nous tous, y compris pour notre archevêque, Mgr Éric de Moulin-Beaufort.
Oui, ben c'est un grand jour, nous recevons un grand don de Dieu en la personne de Mgr Étienne Véteux. Pour moi, c'est la joie d'avoir un auxiliaire, évidemment, et qui va m'aider, me stimuler ma mission. Mais je crois que c'est pour tout le diocèse un encouragement formidable. Et la belle célébration de ce soir en est le signe. Mais ça me soulage d'autant plus que depuis 2 ans, je mesure tout ce qui n'est pas fait, tout ce que nous ne faisons pas, parce que nous n'avons pas la force ni l'énergie. Et donc, enfin, un certain nombre de choses vont être accompagnées, soutenues. Et ça me soulage beaucoup, oui.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, dont vous retrouverez l'homélie prononcée à l'occasion de cette ordination à 19h12 sur RCF France Ardennes. Il sera notre invité également dans Parole d'évêque, dans le magazine régional de vendredi soir. Et dès maintenant, on vous donne un rendez-vous pour mercredi, Jean-Pierre.
Absolument, mercredi en direct de 18h10 à 19h, c'est Mgr Étienne Véteux qui sera notre invité dans le studio de la radio.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h50, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, RCF Champagne-Ardennes. En DAB+, le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Châlons-en-Champagne présente une exposition intitulée « Nos animaux, masse anima, adieu aux bêtes de cirque ». Elle reprend le titre du spectacle créé par le Cirque Plume en 1990 afin d'explorer le lien étroit entre les animaux et les humains dans le monde du cirque. Florine Rouvroy, médiatrice culturelle au musée de Châlons-en-Champagne, nous propose de découvrir en quelques minutes les moments forts de cette exposition. C'est avec Christopher Fausten.
Bonjour Florine Rouvroy.
Bonjour.
Merci de nous accueillir pour nous faire découvrir cette exposition pendant quelques minutes. Une exposition, on peut dire, sous un nom pas choisi au hasard.
Non, exactement. Le titre de l'exposition, donc « Nos animaux, masse anima », vient d'un spectacle du Cirque Plume créé au début des années 90. C'est un nom dans un dialecte inventé par la compagnie qui veut dire « pas d'animaux, plus d'âmes ».
Avec ce titre, on va visiter une exposition et surtout on va emmener le public vers une réflexion.
C'est ça, exactement. L'idée, c'est vraiment de présenter aux visiteurs le lien entre l'homme et l'animal sur la piste de cirque à travers le temps. Et sans prendre parti, mais que le visiteur, en visitant en fait l'exposition, puisse lui-même se forger une opinion, comprendre les enjeux aussi qu'il y a dans le monde du cirque et ressortir de l'exposition avec plus de... d'idées en fait sur ce qu'est l'homme et l'animal dans le monde du cirque.
Alors quand on entre dans ce musée, on commence par un animal, l'ours. Alors l'ours et l'humain, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de significations.
Exactement. C'était très intéressant de commencer avec l'image de l'ours parce que c'est un animal sauvage en puissance. Voilà, on a ces images de lutte entre l'homme et l'ours. On va aussi avoir toutes ces images de montreurs d'ours qui vont évoluer à travers le temps. Et il y a aussi tout simplement la figure de l'ours en peluche qui est une figure très enfantine parce que oui, les animaux, ça évoque aussi le monde de l'enfance. On sait que qu'on soit des petits ou des grands enfants, les animaux, c'est toujours très fascinant. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi la figure de l'ours pour commencer l'exposition. On a environ 130 œuvres qui sont présentées dans l'exposition, majoritairement des œuvres qui proviennent de la collection Jacob William qui a été donnée en 2021 au musée de Châlons. On a aussi des prêts de grands musées français, notamment le MUCEM de Marseille et aussi le Centre Pompidou de Paris, mais aussi des prêts de collectionneurs privés, notamment des photographes contemporains.
Alors on entre dans cette première salle de ce musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Châlons-Champagne avec, on peut le dire déjà, une signification de ce que représente aujourd'hui l'animal et le cirque.
C'est ça, on a notamment cette partie qui s'intitule l'exhibit exotique, voilà, et qui nous montre comment à travers le temps on a montré les animaux au public, parce que avant d'être sur la piste, ils étaient dans les ménageries, et on sait que ça a attiré en fait les visiteurs, on s'en est rendu compte, donc on a déjà commencé à présenter les animaux dans les ménageries pour faire venir le public, et on a commencé aussi à les mettre en scène directement dans les cages, avec les dresseurs qui intervenaient dans la cage.
On poursuit avec le cirque comme on le connaît, on peut le dire, avec différentes affiches. Alors des affiches comiques et des affiches, on peut dire, provocatrices.
Exactement. Là, on est dans cette partie où c'est l'imaginaire collectif du cirque. Les animaux sur la piste, les animaux qu'on vient voir derrière la cage. Et on a effectivement énormément d'affiches parce qu'on a beaucoup communiqué en fait sur la présence des animaux dans les cirques. Et vous avez effectivement des affiches comiques qui vont reprendre des numéros comiques, par exemple des éléphants barbiers. Qui évolue dans cet univers assez drôle, l'éléphant qui imite l'homme, et des affiches qui vous montrent plutôt des animaux très féroces, qui montrent les dents, qui montrent les griffes. On a notamment l'affiche d'un tigre qui dévore un cerf, où il y a même du sang qui coule du corps du cerf, qui sont vraiment dans cette idée de, bon, effectivement, le visiteur ne s'attend pas à voir un cerf tué face à lui. Mais il y a cette idée de tigre très dangereux. On va avoir des animaux très féroces qu'on va approcher de très près. Dans cette idée de qui va s'en sortir, le dresseur ou l'animal. Les visiteurs vont être très demandeurs de ça.
Alors parmi les affiches, on poursuit cette exposition. On disait on découvre beaucoup les animaux dans ces affiches. Mais pas seulement, on découvre l'homme, enfin je devrais dire la femme qu'on découvre à travers différentes affiches de communication.
Exactement, on a toute une partie qui représente des affiches de dompteuses et qui montre en fait cette représentation différente qu'ont pu avoir les dompteuses. On va avoir des femmes, on a une femme notamment Janet McDonald représentée de manière très pin-up, un peu la Marilyn Monroe. Une autre dresseuse qui s'appelle Irina Bugrimova qui va être plutôt dans la lutte avec son lion, un lion très impressionnant parce que c'est un lion de l'Atlas, donc très gros. Et à côté, on a une grande affiche de Madame Morelli qui, elle, s'occupait de dresser des panthères et des jaguars, où on la voit vêtue de sa robe début XXe siècle avec un corset, le jupon, etc., en grande robe de soirée, et les animaux qui évoluent très calmement autour d'elle. Elle fait un petit peu maîtresse d'école, en fait, parmi ces animaux. Donc on voit que les animaux sont très calmes, ils ne sont pas représentés vraiment avec les dents rugissant. Alors, il y en a forcément un ou deux toujours, mais elle est vraiment dans cette idée de... Voilà, elle maîtrise ses animaux comme une maîtresse d'école, très calmement, en douceur.
Alors, Florine Rouvroy, on poursuit l'exposition. On parlait de dompteuses. On va bien sûr penser aux dompteurs, aux dresseurs, avec plusieurs photos d'illustrations de, on peut le dire, de passionnés du cirque, passionnés de dressage.
Exactement. Vous avez... Alors là, les dompteurs sont plus représentés en photo. Et on a des grandes figures du domptage qui sont représentées en France, notamment on a Alfred Court et sa Panthère des Neiges, c'est assez exceptionnel parce qu'il n'y en a pas beaucoup eu, avec Dutschka, sa Panthère Dutschka. On a aussi la figure de Gilbert Houck qui apparaît, qui est donc un grand dompteur français qui a travaillé beaucoup avec les tigres et qui a été beaucoup interviewé et qui notamment explique qu'il n'aime pas en fait le mot dompteur. Il explique qu'il ne veut pas dominer ses bêtes, il veut être un tigre parmi les tigres et ça a été vraiment une figure de référence dans le domptage. Parce qu'il a travaillé en fait des numéros très épurés où il est seul avec ses tigres au milieu de la piste. Il y a juste quand même un socle par tigre pour qu'il puisse aller s'asseoir. Mais c'est tout. Il n'y a pas avec lui d'autres objets. En fait, il n'y a pas par exemple des grandes cortirées, il n'y a pas des cerceaux en feu ou des choses comme ça. C'est vraiment juste lui et ses tigres comme si c'était un numéro dansé presque. Et voilà. Donc c'est vraiment une volonté pour lui d'être à l'écoute de ses tigres. Et il dira même lui-même déjà à son époque, donc on est des années 50, des années 70. Que ces tigres, ils sont pas forcément heureux. Il en a conscience que c'est pas l'environnement parfait pour eux.
Florine Rouvroy, dans cette dernière pièce, alors là, on va plutôt rentrer dans un sujet d'actualité. On le disait en introduction de cette interview, un sujet d'actualité sur l'interdiction des animaux sauvages dans le cirque. C'est quelque chose qui date déjà et qui, pour le moment, n'avance pas parce que voilà, il y a un projet de loi qui est en cours, qui prend du temps et vaut mieux prendre le temps parce que c'est quand même un sujet très délicat.
Exactement, c'est un sujet très compliqué. Il y a déjà des pays en Europe qui ont interdit la présentation d'animaux sauvages dans les cirques et l'idée c'est d'apprendre en fait de ce qu'ils ont fait, de ne pas reproduire leurs erreurs s'il y a eu des erreurs, etc. Donc c'est de prendre son temps. Il y a déjà aujourd'hui l'interdiction de reproduction d'animaux sauvages dans les cirques. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus en fait d'arrivée d'animaux sauvages dans les cirques d'ici 2028. Et ensuite, d'ici 2028, ça devrait être totalement interdit. Et aujourd'hui, on a aussi donc des réflexions sur comment représenter l'animalité sans animaux dans les cirques. Et en fait, la dernière partie de l'exposition présente un petit peu cette idée. L'animalité dans le cirque, donc l'animalité de l'homme, notamment. Et on voit que c'est des questions qui ne datent pas forcément d'aujourd'hui, qu'il y a eu déjà des numéros avec des hommes animaux, notamment dans l'univers des clowns. On a deux représentations de numéros de clown, un avec un homme qui imite l'âne et un autre avec un lion qui repart dans une civière. Évidemment, c'était pas un vrai lion, c'était un lion en peluche. Mais voilà, toute cette partie d'exposition présente en fait ces questions et comment aujourd'hui les cirques y réfléchissent.
Plus de 130 œuvres à découvrir jusqu'au 9 octobre ici au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Châles-en-Champagne. Merci beaucoup Florine Rouvroy de nous avoir présenté en quelques minutes très rapidement cette belle exposition. Je rappelle, médiatrice culturelle au Musée de Châles-en-Champagne. À très bientôt.
À très bientôt, merci à vous.
Un grand merci Florine Rouvroy et Christopher depuis le Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Châlons-en-Champagne. L'exposition No Anima Mas Anima, adieu aux bêtes de cirque, est à découvrir jusqu'au 9 octobre. Ainsi se referme le 18-19 en Champagne ce soir. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui va prendre le relais. À 19h12 sur RCF France-Ardenne et en DAB+, vous retrouverez la méditation de l'homélie de Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui remplacera la méditation du Père Bettler et ses équipes que vous retrouvez habituellement. Cette homélie a été prononcée à l'occasion de l'ordination de Mgr Étienne Véteux, qui sera notre invité dans toute la région, mercredi soir, 18h10, 19h, le nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Voilà, c'est le lundi, on essaye de reprendre le rythme, de reprendre ses marques, et on est un petit peu perturbé par tous ces changements de programme, mais c'est avec joie qu'on vous les partage, parce que la joie se partage sur RCF. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.